Fayard. Depuis le transfert de l'œuvre de Marcel Proust en voiture à bras à l'aube de l'autre siècle, du dernier siècle, de Grasset chez Gallimard, je n'ai jamais rien lu de plus burlesque. Aussi, je vous conseille de lire ce matin l'article où Marie-Dominique Lelièvre, dans Libération, raconte comment, à Deauville, Arnaud Lagardère, fils de marchand d'armes, a offert à Michel Houellebecq, fabricant de bombes à fragmentation désespérante, un stylo Waterman en lac noir. Ils viennent de signer un contrat insolite. Non seulement Michel Houellebecq, qui quitte Flammarion, publiera son prochain roman chez Fayard, propriété de Hachette, mais l'entreprise s'engage à produire simultanément le film tiré du livre via sa filiale GMT, spécialisée dans les fictions télé. Un roman dont on ignore tout, bien entendu, sauf le titre, Une île. Et puis, donc je vous conseille de lire, ça s'appelle Extension du domaine de l'édition, c'est la rubrique Grand Angle de Libé ce matin. Et à propos de transfert, ça se termine par ce joli mot de Pierre-Louis Rosinès, et j'arrêterai là-dessus, mon cher Nicolas. Le métier d'avenir de l'édition, c'est camionneur.
Merci Jean-Louis Hézine, et à demain. Merci Anne Ducourau qui a réalisé l'émission La Technique aujourd'hui. Thomas Robine, il est plus que temps de retrouver François Chalin pour Métropolitain. À demain.
Les collines, sous l'avion, creusaient déjà leur sillage d'ombre dans l'or du soir. Les plaines devenaient lumineuses, mais d'une inusable lumière dont ce pays n'en finisse pas de rendre leur or, de même qu'après l'hiver, elles n'en finissent pas de rendre leur neige. Et le pilote Fabien, qui ramenait de l'extrême sud vers Buenos Aires du courrier de Patagonie, reconnaissait l'approche du soir au même signe que les eaux d'un port, à ce calme, à ces rides légères qu'à peine dessinaient de tranquilles nuages. Il entrait dans une rade immense et bienheureuse. Il eût pu croire ainsi dans ce calme faire une lente promenade presque comme un berger. Les bergers de Patagonie vont sans se presser d'un troupeau à l'autre. Il allait d'une ville à l'autre. Il était le berger des petites villes. Toutes les deux heures, il en rencontrait qui venaient boire au bord des fleuves ou qui broutaient leurs plaines. Antoine de Saint-Exupéry, vol de nuit, Gallimard, 1931, prix Femina cette année-là. Métropolitain. Nous consacrerons aujourd'hui notre émission à l'aménagement du quartier des Halles de Paris, un projet dont il est confirmé que le maître d'œuvre ne sera retenu qu'à l'automne et non pas à la fin de ce mois de juin, comme on l'avait d'abord annoncé. Elle commencera avec la présentation de leur projet par chacun des quatre architectes, puis nous entendrons des points de vue contradictoires à propos de ces propositions. On entendra le milliardaire américain Orrin Hine, j'ai mis des guillemets à milliardaire, qui voulut en 1970 racheter les pavillons de Baltard, puis les représentants de trois associations, Accomplir, Union des Champeaux et Paris des Halles, et l'architecte Paul Chemetorf, qui est l'auteur de la galerie souterraine. Ensuite interviendra un débat avec Serge Federbuch, directeur de la SEM Paris Centre, Jean-Pratique Fortin, architecte et conseiller de cette SEM, Marguerite Descartes, de Société Espace Expansion, c'est-à-dire du centre commercial, et Lorenzo Sancho de Couillac, de la RATP. Nous avons remis à plus tard, car l'émission est déjà très très pleine, et nous entendrons donc dans 15 jours quelques points de vue d'architectes et d'urbanistes que nous avons récoltés, ceux de Michel Bourdeau, Alexandre Chemetoff, Henri Seriani, Bruno Fortier, Antoine Grimbach, Christian Auvette et Dominique Lyon. On commence donc avec la présentation des quatre projets en compétition par leurs auteurs, les architectes Rem Koolhaas de l'OMA, Vinnie Maas de MVRDV, David Mangin du groupe Sera et Jean Nouvel. Je précise qu'on a réalisé ces entretiens le 7 avril, il y a donc un moment, deux mois, au moment même où nous découvrions les projets à l'hôtel de ville, d'où le brouhaha, et puis d'où surtout le caractère un peu imprécis de nos questions à propos de projets que nous n'avions pas encore eu le temps d'analyser, qui n'avaient pas du tout été soumis, comme ils l'ont été maintenant, à toutes sortes de critiques. Ce sont plutôt aujourd'hui donc des sortes de documents. On commence par Les Frères Jacques, une chanson de Bernard Dimet, le quartier des Halles, 1973.
Je n'irai plus jamais dans le quartier des Halles. Mes diables sont partis pour Dieu sait quel enfer. Les touristes ont marché sur les derniers pétales de nos derniers bouquets. On ne veut rien y faire. Je ne suis pas client pour les pèlerinages. Bien le bonjour chez vous, je ne reviendrai plus. J'emporte mes souvenirs avec le paysage. le passé dans ma poche et mon mouchoir dessus. Saint-Eustache a gagné, les diables sont partis.
Vinimas, vous représentez le groupe MVRDB, qui est un groupe qui représente la génération juste en dessous de Rem Koolhaas.
Oui.
Du point de vue des âges. Qu'est-ce qui vous distingue du point de vue idéologique de Rem Koolhaas?
Il y a quelque chose qu'on fait ensemble, qu'on est intéressé sur le processus de globalisation.
Oui.
Peut-être il y a une certaine différence parce que la génération avant nous était intéressé d'analyser ce processus. Je crois la nouvelle génération, nous sommes une partie de ça, est intéressé de construire cet développement de globalisation. Ça veut dire on fait des bâtiments qui ont une vision pour le futur. Nous allons de faire des programmes, des software pour comprendre ça, etc.
Vous avez fait des immeubles extrêmement célèbres, par exemple cet immeuble d'habitation pour quelques familles à Utrecht. C'était à Utrecht.
Pour des familles, le double house.
Oui. Oui. C'est à Utrecht, dans lequel les maisons étaient emboîtées un peu comme dans un puzzle vertical.
Oui. Oui, oui.
Et puis vous avez fait ce célèbre immeuble, c'est pour des personnes âgées,
avec les maisons suspendues.
Avec les maisons suspendues, qui a vraiment frappé beaucoup l'imagination, à tel point que maintenant, dans tous les pays du monde, on fait comme ça des grandes boîtes en saillie. Et puis vous avez fait le fameux pavillon néerlandais, à l'exposition en Allemagne, à Hanovre.
Oui.
Bon, le pavillon, bien sûr, était un pavillon manifeste. Il avait un côté un peu de science-fiction, puisque c'était une sorte d'accumulation, comme un sandwich, une accumulation d'espace ouvert.
Oui.
Et ici, pour votre projet pour les Halles de Paris, est aussi un projet qui parie sur une densité nouvelle.
Oui, parce qu'on a trouvé ici déjà une ville trois-dimensionnelle, avec 5 ou 6 étages en bas, mais on doit montrer ça pour le monde, parce que c'est donc une richesse hidden, cachée.
D'où l'abandon de l'idée du grand jardin presque naturel en terre que prétendait être l'actuel jardin des Halles pour un jardin que vous appelez une sorte de grand vitrail.
Parce que ce vitrail, ça montre sa richesse clairement. Et ce vitrail est aussi une pièce multiculturelle, multicolorée. Ça deviendra comme une danse floor. À Paris.
Une piste de danse.
Oui. Oui.
Donc vous avez séquencé le sous-sol, c'est un découpage extrêmement précis, et on voit là des taches pour le moment bleues, jaunes, vertes, enfin, tout ça pourrait changer. Et vous pensez qu'on puisse sentir comme ça l'énergie d'un sous-sol par son émergence sur un sol?
Oui, c'est ça. Parce que je crois que là, on trouve une énergie énorme. Et chaque proposition qui évite ça, à mon égard, mon vision, mon perspective, ça s'annule.
L'inconvénient de votre projet, c'est que c'est celui qui propose le moins d'émergence, le moins d'architecture à l'extérieur.
Je crois que ce nouveau dance floor est une pièce d'architecture formidable qu'on ne connaît pas. Est-ce que vous pouvez imaginer de se promener dans un espace qui est illuminé de terre où chaque personne devient une personne de théâtre avec une sécurité énorme?
Alors, Rem Koolhaas, vous avez fait le projet qui propose le plus d'architecture émergente, à tel point que le jardin des Halles, si on vous suivait, paraîtrait comme une espèce de grand jeu de quilles ou un grand... Vous parlez de bouteilles de parfum qui émergeraient en grand nombre.
Je ne pense pas forcément qu'il n'y a plus de volume, mais c'est basé sur un éclatement de volume et une réduction de volume. Et je pense que ce qu'on a voulu éviter, c'est la qualité grand projet. Donc, une espèce de symétrie contre le blé avec un grand objet ici. Il y a suffisamment de grands projets dans l'entourage. Donc, ce qu'on a préféré, c'est une miniaturisation qui permet une logique plutôt cumulative qu'absolue.
Ce sont des objets en effet pas extrêmement grands, mais ils montent quand même l'équivalent de 6 ou 7 niveaux. Parfois, ils descendent dans le sol profondément.
Oui. Mais l'auteur n'est pas vraiment la question. Ils peuvent aussi être miniaturisés. On est dans un temps où tous les décisions sont très vulnérables, surtout ceux qui impliquent une durée de 5 ou 6 ans. Donc c'est pour ça qu'on a développé une logique où on pourrait théoriquement faire un pavillon dans 6 mois.
Pour le moment, ces bâtiments sont tous d'une même famille. On pourrait dire ce sont des sortes de petites pyramides, toutes un peu éclairées de l'intérieur, un peu rose, orange, des jeux de couleurs. Est-ce que vous pensez que ces bâtiments, nécessairement, il serait souhaitable qu'ils soient de la même famille?
Non, pas du tout. Au contraire, je pense qu'ils ont besoin d'une différenciation beaucoup plus grande, mais on n'a pas voulu, suggérer ça.
Vous construisez massivement sur l'ancien cratère des Halles. C'est mieux que vous le niez, il disparaîtra le cratère.
Le cratère en soi disparaît. Elle sera remplacée par une icône centrale qui donne une espèce de manifestation visible d'un centre.
Pour le moment, vous avez mis, mettons, peut-être 20 bâtiments.
Oui.
20 petits gratte-ciels, ça ressemble un peu à des petits gratte-ciels pour leur proportion, mais ils ne sont pas très
pas
haut.
Pas du tout gratte-ciel, ce sont des pavillons, oui.
Ils font 8 étages, oui.
C'est la même échelle que le pavillon Bataille.
Il serait confié à n'importe quel architecte ?
Pas n'importe quel, mais aux architectes différents.
Mais avec une règle du jeu minimale que vous élaboreriez ou que vous aimeriez élaborer ?
Certainement, et surtout une programmation qui est fixée, parce que ça c'est le plus important ici.
Vous savez que les écologistes sont assez puissants actuellement en France, et à la mairie de Paris particulièrement. Oui. Qu'advient-il des arbres dans votre projet ?
Dans le projet, nous avons récupéré tous les arbres qui sont actuellement implantés, et on augmente la surface végétale de 4 à 7 hectares.
Sur un mode extrêmement différent, un mode de regroupement différent.
Oui, parce que le problème du végétal actuel, c'est que c'est une végétal généralisée, avec peu de points d'accrochage. Et ici, on a voulu une différenciation. Il y a des vers pour des enfants, des adultes, etc., etc. Donc, on profite d'un éclatement du total pour avoir une presque catalogue de végétal qui sera utilisable par tout le monde.
On a l'impression, si on ferme un peu les yeux et qu'on se souvient du projet, que c'est un projet qui appelle une espèce de joie.
Je pense que c'est un mot très important parce que actuellement Paris est tellement parfait qu'elle est presque morose. On a voulu vraiment introduire une esthétique autre et une échelle autre.
David Bangin, vous avez écrit plusieurs ouvrages, notamment avec Philippe Panerai, autrefois dans la collection d'éditions Parenthèses, qui sont des ouvrages assez soucieux de la question urbaine. Et vous venez d'en faire paraître un nouveau, La ville franchisée.
Oui, ce travail-là est un peu différent d'un travail d'étude sur les formes et les structures de la vie contemporaine et les formes de l'étalement urbain contemporain. Alors on pourrait le raccrocher éventuellement à ce projet dans la mesure où il y a un parti pris dans ce projet qui consiste à essayer d'insérer ce projet dans une lecture plus vaste de la ville et d'éviter que les centres-villes notamment deviennent des centres-villes entièrement dédiés au shopping, des zones piétonnes qui la nuit ne fonctionnent pas. Donc la question de la ville passante par exemple est une question qui me préoccupe et qu'on a essayé de traduire concrètement dans ce projet.
De tous les projets, des 4 projets qui sont présentés là, le vôtre est celui qui manifestement se réclame le plus de la culture urbaine telle qu'on l'a entendue depuis une vingtaine d'années.
C'est pas un a priori, en réalité c'est un travail de fond depuis 6 mois qui fait que comme toujours on trouve le sens de ce qu'on fait à la fin du travail et on s'est aperçu que les halles peuvent être remis dans un élargissement de l'hypercentre, c'est-à-dire au lieu, on peut avoir le parti pris de renforcer l'hypercentre, nous notre parti pris c'est plutôt de le mettre à sa juste place. On peut toujours continuer à mettre Prada dans ce centre commercial, mais on peut aussi, si on veut éviter que le centre de Paris se gentrifie à outrance ou chasse ou devienne invivable pour les survivants du shopping qui vont être autour, il faut trouver une solution qui permette de satisfaire et l'échelle métropolitaine et l'échelle des quartiers centraux et l'échelle des riverains notamment.
Votre projet pour l'essentiel est fait d'un jardin, vous voyez, rectangulaire et d'une immense couverture. Pouvez-vous nous parler de l'un et l'autre successivement?
Les deux sont liés. L'idée, c'était de construire le vide. Dans une première phase, d'ailleurs, nous avons proposé de faire le jardin le plus grand possible et de reconstruire sur l'îlot Berger un bâtiment à peu près de la taille de Beaubourg. Malheureusement, ça n'a pas été possible, en tout cas, de l'envisager en première phase. Et donc, notre position de, je dirais pas de repli, mais notre position, parce qu'elle ménage l'avenir. Avec ce projet-là, on peut continuer éventuellement à faire sur l'îlot Berger un bâtiment qui dialoguerait avec le centre Pompidou, Saint-Eustache, la Bourse et l'îlot Berger.
Donc, je rappelle, ce qui est autour et au-dessus de l'actuel cratère.
Oui, non, c'est ce qui est en rive, c'est le Novotel qui est dans le Square des Innocents et derrière la place Marguerite de Navarre. Un des acquis, je dirais, positifs, en tout cas l'acquis principal positif des années 70, c'est de ne pas finalement avoir construit beaucoup sur ce vide et dans un centre-ville dense. Et donc, notre devoir aujourd'hui, c'était de construire, pour plus que 30 ans, de reconstituer ce vide et de le délimiter, de le qualifier. Et en construisant à 9 mètres, ce qui est un choix très important dans ce projet-là, on permet de voir la relation avec Beaubourg, que les riverains puissent avoir une vue sur l'ensemble du site. Et donc ce toit, il doit être vu.
Il est immense, c'est plus d'un hectare.
Il fait 145 mètres par 145 mètres, ce qui est à peu près la taille de la place des Vosges ou de la cour carrée du Louvre. Mais nous semble-t-il, il est à l'échelle des fameuses 800 000 personnes par jour. Et donc il signifie que il couvre un espace qui est d'une certaine ambiguïté, mais je pense que c'est ça qui est riche. C'est-à-dire que c'est à la fois, il peut être interprété comme un passage couvert du XXIe siècle, il peut être interprété comme le plafond d'un grand magasin, comme une halle de gare, comme la plaque d'un grand équipement. Donc c'est tout ça qui devrait faire sa richesse.
Et est-ce que vous pensez qu'il sera d'une certaine monumentalité ou est-ce que ça ne vous préoccupe pas ?
Je pense que le défi est intéressant, c'est qu'il fasse événement sans être monumental. C'est que ce soit un monument plat, si j'ose dire. 145 par 145 par 9 mètres, c'est une certaine originalité. C'est assez peu courant dans l'histoire de l'architecture. Donc évidemment, tout dépend de la réussite de ce plancher. On a hésité entre plusieurs solutions. Là, pour le moment, la solution qui est à l'étude, c'est de le faire à caisson, ce qui permet de construire des faisceaux de lumière. On pourrait le partager comme traverser comme dans un souk, d'une certaine manière, ou comme un passage couvert. Et puis aussi, ça permet des tas de choses du point de vue climatique. Ça permet éventuellement de pouvoir faire des patios à l'intérieur plantés pour le premier étage. Ça permet de faire des jeux de lumière événementiels.
Vous n'avez pas songé à en faire un grand jardin comme Jean Nouvel ?
On songe à en faire plusieurs petits jardins patios au fur et à mesure du travail qu'on pourra faire avec les programmateurs.
C'est un projet qui est moins coûteux que ceux qu'on a vus jusqu'ici.
Je ne connais pas les prix des...
Vous les sentez. Vous les sentez.
Je sais pas. Non. Je crois qu'une des choses importantes dans le retour sur investissement, pour parler concrètement, c'est de savoir combien de mètres carrés on fait supplémentaires et à quel prix. Mais je pense... Enfin, ce projet-là, à l'échelle du budget de la ville de Paris, n'est pas un projet extrêmement coûteux.
Et le jardin, alors ?
Alors, le jardin, le pari qui a été fait, c'est de dire que, pour le moment, les arbres qui sont là souffrent beaucoup du piétinement, de toute une série d'agressions. Mais on a fait avec Philippe Raguin, qui est le paysagiste qui a mis en œuvre Bercy, donc qui a une très grande expérience de terrain de ce que c'est que la sollicitation d'un jardin parisien. C'est donc d'essayer de voir si un certain nombre d'arbres pouvaient être repris.
Et quant à son organisation ?
Alors, son organisation, il est en trois parties. Un cours central, qui est le lieu de la vie, de la mode, de l'improvisation, de la drague, du rendez-vous, de tout ce que vous voulez, qui peut être avec un banc, qui peut être réversible, on regarde le cours, on regarde Saint-Eustache, on regarde le vide. Il y a des salons de verdure, il y a des terrasses qui donnent sur le jardin, une terrasse du conservatoire, une terrasse de café qui sont orientées à l'ouest, qui est quand même le moment où les halles sont le plus fréquentées. Et puis de l'autre côté, trois bandes, qui sont plutôt, je dirais, le jardin des riverains, c'est-à-dire le jardin pour les jeux, pour les promenades, pour les habitués.
Ça veut dire des jardins éventuellement privatisés comme ils sont actuellement ?
Non, justement, l'idée, c'est qu'en renivelant, il y a une visibilité qui fait qu'on évite une appropriation, soit par des joueurs de foot, soit par des dealers, soit etc. Enfin.
Jean-Noël, une fois de plus, vous définissez votre projet comme un projet de modernité et un projet contextuel. Quelle forme prennent ici ces deux notions ?
Je dis que la modernité, c'est de savoir où on est. Et la modernité, c'est valoriser ce qui est autour. Je crois que la modernité des années 70, où on se positionnait en rupture, n'est pas de mise, et surtout dans un quartier historique comme celui-là. Ce qui est très moderne dans ce projet, selon moi aussi, c'est l'extension de ce territoire. C'est un projet qui est basé sur le vide, en fait. Même s'il y a beaucoup de projets, on m'a dit il y a beaucoup de projets. Oui, il y a beaucoup de projets, mais ces projets, en fait, ils créent du vide, ils créent de la continuité. Et tous les thèmes, même si on prend le thème des jardins parisiens, qui a été retraité par Michel Desvignes, c'est pas du tout les jardins parisiens tels qu'on les voit au Palais Royal. Les arbres n'ont pas du tout les mêmes essences, ils sont alignés sur des rythmes très aléatoires. C'est une sorte de musique qui permet aussi de dégager des vues sur les monuments ou de créer en transversalité des paysages qui sont inattendus. Donc il ne faut pas se fier trop à une sorte d'image générale vue de 500 mètres de haut, là on est là. Il faut voir quelle est l'essence des choses. Moi je me prononce toujours sur la nature de la modernité au vu de l'essence.
Alors, l'essence est d'abord un jardin rectangulaire, à peu près dans les proportions actuelles.
Oui, on peut dire c'est le premier jardin.
Contenu de bâtiments à caractère urbain, traditionnel, qui en quelque sorte gomme une partie de ce qui était fait jusqu'ici ou de ce qui subsistait du tissu haussmannien.
Je ne suis pas sûr que ces bâtiments soient traditionnels parce que, mettons, la rue Berger, c'est exactement la proportion de la Fondation Cartier. C'est entièrement vitré. Ensuite, c'est très végétalisé sur le dessus. Je ne connais pas beaucoup de bâtiments comme ça à Paris en ce moment. On recrée effectivement une rue Berger qui est très spectaculaire aussi et très particulière parce que c'est un passage couvert qui intègre un jardin qui se glisse en dessous et la rue Berger devient elle-même un jardin avec ses façades végétales sur un côté, des arbres, des passages couverts. Et en fait, cet immeuble, s'il prend un peu plus de densité, c'est pour accueillir les locaux de la chambre de commerce, pour libérer ici une grande place couverte qui est une sorte de salon urbain, qui est une orangerie, où on retrouvera salon de thé, pâtissier, livres, ça, journaux,
etc. Le commerce, l'ancienne Ars,
Halle ou Paris. Et de ce côté, entrer un parvis pour l'église. Ce parvis pour l'église est entouré par des bâtiments qui, au rez-de-chaussée, sont des halles aussi, dans lesquelles on trouve la halle du marché, avec un immeuble vitrail qui diffracte l'image de Saint-Eustache, qui est un centre de mini-conférences. Ici, on a un institut pour les arts de la table. Et là, il y a un grand studio de télévision qui serait en plein ciel. Et on suppose qu'une chaîne de radio de télévision pourrait venir ici.
Donc, vous créez un parvis, vous créez deux ou trois rues, la rue Berger, la rue qui est devant le petit cochon, et un objet très étrange, oui.
Oui, qui est en fait une rotule, puisque ça permet d'arrêter la rue Rambuteau, de cadrer une vue très très particulière sur Saint-Eustache, de recréer une place à la pointe de Saint-Eustache, une place sur le transept de Saint-Eustache aussi.
Trois niveaux de jardin, le jardin traditionnel au niveau plus ou moins du sol ancien, un jardin que vous avez appelé le jardin balcon sur Saint-Eustache.
Oui, qui est une façon de regarder l'église puisqu'on est au-dessus des arbres du,
c'est donc le berger
du jardin. Et là, c'est un jardin beaucoup plus calme, c'est un jardin à thème. Et donc ce jardin-là, il donne accès à un autre jardin qui lui est sûrement le plus spectaculaire, puisqu'il sera au niveau des toits parisiens, il surfe sur les toits parisiens, une sorte de tapis volant entre le centre Pompidou et Saint-Eustache.
Et sur cette terrasse qui semble faire un bon hectare, hein, à peu près, un peu plus même, une énorme masse d'eau en équerre, une piscine dites-vous ?
Oui, c'est une piscine qui est une équerre de 70 mètres par 110 mètres de long, qui est couvrable et découvrable, qui est en plein ciel et en plein soleil, sur les toits parisiens aussi, qui est connectée à une autre terrasse en dessous pour le fitness et le spa. Donc ça, c'est des endroits qui sont ludiques. Cette piscine ludique est en complément de la piscine beaucoup plus fonctionnelle et sportive qui est en dessous.
Un peu de calendrier avant que nous commence le débat sur les Halles, à Vannes, en Bretagne. Exposition consacrée à l'architecte Yves Guillou, qui était né à Plouézec en 1915. Il fut parmi les inventeurs d'un style néo-breton des années 60 très caractéristique, avec des grands toits d'ardoises descendant jusqu'au sol, de l'ardoise parfois mise en bandeaux verticaux, modernisés, quoi. Des volumes aux géométries biaises, aiguës, triangulaires, comme dans le Yacht Club de Carnac ou l'école de voile de Saint-Pierre-de-Quiberon. C'est aux archives départementales du Morbihan, à Vannes, jusqu'au 2 octobre. À la Cité internationale à Paris, dans la Maison du Mexique, exposition Nouveaux espaces publics en Colombie vers une autre culture urbaine, projet à Bogota et à Medellin, qui sont issus des biennales colombiennes des années 2000 et 2002. À l'Institut néerlandais, on voit aujourd'hui une exposition Jeune projet Nouveaux bâtiments qui offre un aperçu du travail de trois agences néerlandaises, pas encore très connues, NL Architects, Aaron et Gelhoff, et Cortechni Stulmacher Architekten. C'est l'Institut néerlandais 121 rue de Lille jusqu'au 11 juillet à Paris. Ce soir, poursuite du débat sur l'idée de construire de nouvelles tours à Paris, qui agite même le Forum des Halles, c'est cette fois l'initiative de l'association ADA 13 avec Christian Torzempart, Marc Ambroise Rendu, président d'Île-de-France Environnement, et avec plusieurs habitants des tours, des quartiers Olympiades et du Front de Seine. C'est à l'ADAC, place nationale à Paris, ce soir à 20h. À Lille, ouverture d'une exposition consacrée à des photographies de John Margulies, American Roadside Architecture. C'est à l'école d'architecture et ce soir, il y a une introduction à 18h15 par l'américaniste Catherine Pouzoulet, qui est une politologue aussi, on l'a reçue il y a 3 ou 4 ans ici. C'est à l'école d'architecture de Lille, rue Verte. À Lyon, vendredi, à l'initiative de l'école d'architecture du CAUE du Rhône, rencontre à propos de la restauration et de l'extension d'une maison du 15e siècle, dite du Chamarier et de ses alentours. C'est au CAUE du Rhône, quai Saint-Vincent, vendredi à 16h. Une exposition de projets, travaux d'étudiants, aura lieu de mardi à jeudi, au CAUE du Rhône, quai Saint-Vincent, même adresse. À Paris lundi, conférence de l'architecte espagnol de Navarre, très célèbre, prix Pritzker, etc., Raphaël Moneo. Il a eu Pritzker en 96. Il est auteur notamment du Kurzhall de Saint-Sébastien qui lui a valu le prix Mies van der Rohe en 2001. C'est les entretiens de Chaillot lundi à 18h à la Cinémathèque au Palais de Chaillot. À Villeurbanne, rencontre autour d'un livre d'architecture. Lundi, le critique italien Luca Rivalta de Bologne à propos de son ouvrage Louis Kahn et la construction poétique de l'espace paru au Moniteur. C'est Cour Émile Zola lundi à 19h. À Paris, ouverture d'une exposition consacrée à de récents travaux de l'excellent photographe d'architecture et de paysage Stéphane Couturier. Ça s'appelle Mutation, au pluriel. Elle se tient à la galerie de photographie de la Bibliothèque de France, rue de Richelieu, jusqu'au 29 août.
Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feio.
Eu sei que vou te amar, de Vinicius de Moraes e Maria Cruza. Je sais pas, il faudrait regarder un peu pour entendre Maria Cruza, qui chante à un moment.
Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina, non si poteva.
En fait, je crois qu'on s'est trompé, c'est A Casa, et c'est pas du tout la chanson annoncée. Donc il n'y a pas Maria Cruz. Le prix japonais Premium Impérial, établi il y a 16 ans, est doté de 11 700 euros. Ont été attribués. Ils vont à Christophe Penerecki pour la musique, Bruce Naumann pour la sculpture, Georg Baslitz pour la peinture, Abbas Kiarostami pour le cinéma et au vieil Oskar Ushkar Niemeyer, 96 ans, né le 15 décembre 1907 pour l'architecture. Depuis sa création, il avait récompensé Yom Mumpei, James Sterling, Gao Lenti, Frank Gehry, Kenzo Tange, Charles Correa, Renzo Piano, Tada Hondo, etc., etc. Jean Nouvel, il y a 3 ans, Norman Foster et Rem Koolhaas en dernier, soit 3 Anglais, 3 Américains, 3 Japonais, 2 Italiens, 1 Indien, 1 Portugais, 1 Néerlandais, 1 Français et aujourd'hui 1 Brésilien. Autre nouvelle, important événement demain à Paris pour la culture architecturale, l'ouverture d'une maison de l'architecture dans l'ancien couvent des Récollets, près de la gare de l'Est. Couvent, caserne, hospice, puis hôpital des armées sous le nom de Villemain. Il est en 1973 affecté à une école d'architecture qui le quitte quelques 20 ans plus tard du fait de sa vétusté. Il y avait eu un projet d'aménagement en 87 confié à Francis Soler, puis un squat entre 90 et 92, les fameux anges des Récollets, et puis un incendie en décembre de cette même année. La RVP y aménage pour l'État un centre international d'accueil d'une part, je crois que c'est Antoine Grimbach qui en était l'architecte, et puis cette maison d'architecture d'autre part confiée à l'ordre régional des architectes que dirige Michel Seban. Il y a 22 de ces maisons actuellement en France. Les 16 lauréats des albums de la jeune architecture 2001-2002 ont été invités à concourir, l'affaire allant finalement à Catherine Chartier et Thomas Corbasson dont on verra le travail. Demain, il y aura des conférences, lectures, tout genre, beaucoup de choses, notamment des événements liés à la chorégraphie. Et puis, pour l'ouverture, demain soir, un bal des architectes à 21h30. C'est donc les Récollets, 148 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement, juste à droite de la gare de l'Est, quand on en regarde la façade.
On les a démontées, les halles, par décision municipale, sans me demander mon avis. Mais j'irai jamais à Rungis. Mon vieux boulevard Sébastopol, on lit toi et moi deux poteaux. Alors permets que je coupe le pol et que je t'appelle mon Sébasto. Ça me plaît que tu commences au bord de la Seine, avec ses chalands, avec ses reflets. J'ai toujours aimé les belles mises en scène, et dans mon enfance, il y avait du Châtelet.
Jean-Roger Cossimon, Mont Sébasto, musique de Léo Ferré. Nous reprenons l'émission sur les Halles de Paris avec quelques témoignages que nous avions enregistrés. D'abord celui de Orrin Hines, milliardaire américain qui tenta de racheter les pavillons de Baltard avant leur malheureuse démolition.
Pendant ma jeunesse, mon père et ma mère habitaient de temps en temps à Paris, et j'habitais avec eux, et mon père aimait faire les courses aux Halles, alors très tôt le matin, alors de temps en temps je l'accompagnais. Alors un jour en 70, je me suis trouvé aux Halles et on m'a averti qu'il y avait l'intention de les enlever, de les remplacer avec autre chose, de faire le raccordement du métro et le RER dans sa place. Alors je suis rentré aux États-Unis et j'ai suivi un peu les événements de loin. Et dès que le préfet, M. Diebold, a annoncé qu'ils allaient les détruire, je lui ai écrit que j'avais créé un comité pour la sauvegarde des pavillons de Baltard aux États-Unis. C'était pour essayer de les sauvegarder d'une façon ou d'une autre. On était préparé à les racheter, mais au début, on voulait que quelques-uns restent en place si c'était possible. On aurait payé pour ça. Mais comme ils avaient déjà décidé de les détruire, on allait voir s'il y avait la possibilité de les placer ailleurs en France ou, faute de ça, les remonter aux États-Unis. Parce que parmi les gens de mon comité, il y avait des gens dans l'immobilier qui construisaient des choses assez importantes, alors il n'y avait pas de problème.
Vous êtes ces jours-ci à Paris, et je crois que vous êtes allé voir les nouveaux projets.
Oui, c'est idéal. Je crois qu'il y a une très grande difficulté. Parlons pas uniquement des moquettes que j'ai vues. Il me paraît que presque tout le monde est d'accord. Ce qu'ils ont fait là-bas n'est pas réussi. Ce qu'ils ont fait il y a 30 ans. Mais ils se sont habitués. Et ils craignent que ce qui se passera sera pire. Et je ne le critique pas, mais je trouve que dans les moquettes que j'ai vues, il y a beaucoup de choses qui améliorent l'utilisation de l'espace et la lumière qui existe.
C'était donc Ori Haim, ce milliardaire américain, qui était interrogé par Sylvie Groef. On a interrogé aussi Paul Chemetov, grand prix d'architecture 1980, et auteur de la très belle galerie souterraine de béton, un peu Viollet-le-Ducienne, un peu inspirée par Viollet-le-Duc dans son expression, et puis de la piscine qui a été inaugurée fin 86. Paul Chemetov avait, avec la UA, également participé, il y a très longtemps, à la consultation de 1967 du temps du général de Gaulle.
Première chose, il s'agit d'un marché de définition. Ce marché de définition suppose que les candidats retenus émettent un programme de transformation. Et deux des candidats sont des auteurs évidents, Jean Nouvel et Rem Koolhaas, qui ont, avant toute proposition et tout marché de proposition, fait des offres architecturales, avant même que d'être programmatiques. Je crois que c'est déjà le début de la difficulté du jugement. Et ensuite, s'agissant d'un marché de définition, j'aurais pensé nécessaire que soit Vasconi et Pancréas, soit moi-même pour avoir participé à des parties antérieures du projet, soient interrogés au même titre d'un marché de définition. La deuxième chose, concernant les propositions, il faut toutes les replacer dans leur cadre géographique, c'est-à-dire de la Seine à la rue Étienne-Marcel et du Palais-Royal à Beaubourg. Et ne juger de leur pertinence que par leur effet à cette dimension. Maintenant, sur place, on sait très bien qu'il y a trois questions qui gênent. L'usage du jardin, qui n'est pas satisfaisant. La question du RER et la nécessaire extension du centre commercial. Alors, si on a ça en tête, on peut juger des propositions qui sont diverses. Prenons celle de l'équipe Mangin. C'est évidemment une proposition programmatique, claire, simple, dont on peut dire facile à réaliser, dont on peut dire que, par contre, l'approche gazonnée vers Saint-Eustache est encore en deçà de la main et devrait être, je le crois, perfectionnée. L'approche de Jean Nouvel est extrêmement inventive et il est évident que Jean Nouvel se souvient qu'il a été l'organisateur de la consultation du syndicat de l'architecture des années 80. Il se souvient d'excellentes propositions, notamment comment traiter l'échelle de raccord avec le tissu parisien, et sa proposition d'une pelouse en plein ciel fera certainement rêver plus d'un écologiste. La proposition de MRVD, c'est certainement une proposition programmatique, mais qui consiste à détruire le jardin et à détruire le sous-sol. Parce que le sous-sol, il faut s'en souvenir, enfin toute la partie sur laquelle j'ai travaillé, c'est une dalle qui résiste à 4 tonnes au mètre carré. Donc vouloir la crever pour l'éclairer au travers de la vitre d'un flipper, c'est détruire la totalité du sous-sol. C'est quand même un investissement d'au moins 200 millions d'euros, c'est pour la partie sur laquelle j'avais travaillé, et dont la garantie, la bonne garantie, dure jusqu'en 2015. Donc est-il nécessaire de le détruire si vite? Je pense que on a deux exemples à Paris, la gare d'Orsay et le muséum, où par rapport à un bâtiment existant, les uns ont détruit et les autres ont interrogé avec esprit critique. Et je crois que l'interrogation du muséum a donné un meilleur résultat que les destructions de Gaé-Olanti. Et je pense que pour toute situation urbaine, c'est la même chose. Reste la proposition de Rem Koolhaas. En fait, il propose une sorte de plan voisin sur le quartier des Halles, fait de d'érics de 37 mètres de haut et censé amener la lumière dans les mêmes conditions que son voisin batave dans les sous-sols au prix des mêmes destructions. Mais il y a une partie forte intéressante dans la proposition de Rem Koolhaas, c'est l'idée de se servir du barreau inutile nord-sud de la voirie pour descendre jusqu'à la salle d'échange du RER, et pour cette partie, ces deux tours seraient extrêmement bienvenus. Et je reviens de Rotterdam, si vous voulez, où j'ai été voir les deux expositions Koolhaas. Au fond, il y a dans l'attitude de ces grands Hollandais comme un mépris de fer pour le provincialisme français-parisien. Au fond, le mépris du cavalier Bernin, celui de Bofill un peu plus tard, celui des Bataves aujourd'hui. Je crois qu'il faut aborder cette situation urbaine qui doit être transformée, qui doit être modifiée, avec plus d'humour, plus de sens critique, plus de culture et plus de sens du temps de la ville.
Je précise que l'interrogation du Muséum d'Histoire Naturelle dont parlait Paul Chemetoff est une œuvre de lui-même. Nous n'avons pas pu pour le moment recueillir l'avis de Claude Vasconi, Grand Prix de l'architecture 82, et qui était avec Georges Pincréac, l'auteur du Forum des Halles, inauguré l'automne 79, et il avait pour cette consultation en cours formé une équipe avec le Berlinois Axel Schultes, mais il n'a pas été retenu. Il a fait savoir dans le journal du dimanche, il y a 3 ou 4 semaines, qu'il veillerait à ce que ses droits... Je ne sais pas ce qu'il entend par là, soit protégé. Voici enfin les points de vue de 3 associations qui se disputent l'ancien carreau des Halles. Gilles Pourbet pour Accomplir, Jean-Jacques Gouret pour l'Union des Champeaux, et dans cet ordre, Gilles Beauvais pour l'association qui porte ce nom, ce joli jeu de mots, Paris des Halles.
Notre analyse se base uniquement sur les usages du quartier, en aucun cas en critères d'esthétique. Hein, nous n'avons pas voulu entrer dans ce débat. Nous nous proposons uniquement en tant qu'usagers du quartier et résidents, bien entendu, du quartier. Nous avons procédé de 2 manières. Nous avons retenu les points qui nous semblaient positifs pour le quartier et également les points qui nous semblaient négatifs. C'est-à-dire qu'à la fois, on a écarté des projets et on en a retenu d'autres pour des raisons positives. Nous avons fait de nombreuses réunions avec les habitants du quartier, mais également avec les différents partenaires, Espace Expansion, la RATP, la SEM Centre, les services de police, etc. Et donc, nous sommes arrivés à un catalogue de 51 critères. Si on prend les 4 projets dans l'ordre alphabétique, en commençant donc par Koolhaas, ce qui nous plaît pas du tout dans le projet de Koolhaas, c'est l'irruption du commercial dans le jardin. Également, il fait un canyon qui va venir couper le jardin en 2 parties. De plus, ces tours font entre 25 et 31 mètres, et il y en a 21. On a du mal à imaginer ces tours vieillissant bien. Koolhaas promet la construction des dernières tours en 2012, ce qui veut dire une dizaine d'années de travaux. Et si dans 20 ans on recommence, ça fera des travaux tous les 25 ans, 10 ans de travaux, ce qui est insupportable pour le quartier. Le projet de masse, c'est celui qui fait donc un podium et vitrifie quasiment le quartier. Là aussi, c'est un projet qui nous semble complètement inacceptable, puisqu'il met le jardin sur un podium entre 5 et 6 mètres de hauteur. Qui veut dire que les rues Berger, les rues Rambuteau et la rue Lescaut seront autant de corridors avec au-dessus, 2 étages au-dessus, 6 mètres ça fait 2 étages au-dessus, le jardin qui couvrira une gigantesque espace commercial. Donc pour nous ce n'est pas non plus un projet acceptable. Et puis l'idée à partir du jardin de voir le dessous, on n'y voit pas vraiment beaucoup d'intérêt. Il pousse même le culot jusqu'à rendre une partie de la boucle automobile, donc des tunnels visible du jardin, donc on se promènera dans le jardin, on aura le loisir de regarder passer les voitures sous nos pieds, ce qui est quand même assez douteux comme idée. Le projet nouvel, c'est plus de 60 000 mètres carrés de construction. Sur la rue Lescaut, c'est un bâtiment qui monte à l'équivalent du 9e étage. Il construit 2 bars du côté rue Rambuteau et puis rue Berger. Il enserre donc le jardin dans du bâti. C'est de loin le projet qui nous semble être le plus terrifiant pour le quartier. Il construit également une tour de 31 mètres de hauteur pour abriter le conservatoire, mais qui va se trouver dans l'axe de Saint-Eustache quand on arrivera à la Fontaine des Innocents. Donc pour nous, c'est un projet qui n'est pas acceptable. Et le slogan qui est en train de courir sur le quartier, c'est « pas de nouvelles, bonne nouvelle ». Donc on s'est prononcé pour le projet de Mangin. Un grand mérite à nos yeux, c'est de laisser le jardin quasiment intact. Le quartier a besoin de respirer, il a besoin d'un espace de quiétude. Il redimensionne tout ce qui est équipement collectif en le mettant sous son carreau. Bon, certes, le carreau n'est peut-être un peu massif et bon, encore une fois, ce projet est peut-être à retoucher. Mangin également a pensé à faire un système de livraison par voie ferrée qui nous tient énormément à cœur et qui serait vraiment innovant si on veut faire un projet tourné vers l'avenir.
Et c'est donc une majorité qui se prononce pour le projet Mangin.
Alors non, alors ce qui commence à ressortir du quartier, ce qui est un peu inquiétant, c'est un rejet total de tous travaux. Les gens qui sont allés voir les maquettes sont absolument effrayés par l'ampleur des travaux, et c'est un quartier, il ne faut pas l'oublier, qui a été traumatisé il y a 25 ans, qui a vécu des travaux absolument colossaux et qui ne supportera pas de repartir pour 10 années de travaux. C'est absolument impensable.
Et il voudrait surtout pas qu'on touche au jardin, entre autres le jardin des enfants, parce que, ben il est pas mal ce jardin, il est quand même assez réussi. Mais tel que j'ai entendu monsieur le maire de Paris, Bertrand de Hanoé, si un projet est choisi, ça veut pas dire que ça sera construit tel que c'est à l'heure actuelle sur les maquettes. Il y aura encore une prise en compte des avis qu'on demande aux gens, enfin, je le souhaite, hein.
Vous avez même participé au jury du fameux concours lancé par le syndicat des architectes en 1980. Non. À cette époque-là, quelles étaient vos envies pour le quartier et quelles étaient les réponses qui vous tentaient?
Ben écoutez, les réponses qui... quand l'intention de Beaubourg a été donnée, on a applaudi vraiment, oui, avec les deux mains, parce que nous nous battions pour qu'il y ait une dominante culturelle dans l'aménagement de cette époque-là. À l'heure actuelle, on voit qu'il y a quand même une fluctuation entre Mangin, Serein, hein, qui construit le moins 16 ou 18 000 mètres carrés, Nouvelle qui construit le plus, mais comme vous rappeliez le concours international, bon, il est évident, bon, avec Jean Nouvel, nous nous connaissons depuis un quart de siècle, mais il en fait beaucoup trop, là.
Pour nous, c'est plus une opération immobilière juteuse qu'un réaménagement profond du quartier. On pense que le quartier est déjà très dense et que rapporter une densification encore plus importante au cœur de Paris sans lui laisser de respiration n'aboutira pas à un meilleur sentiment de bien-être. Ces espaces deviennent très réduits. Le jardin des Halles devient une sorte d'atrium et nous pensons aussi que son jardin suspendu, plus qu'un lieu à vivre, est une attraction pour les touristes. Mangin, par son carré qui est énorme, son grand toit, prend énormément d'espace. Et il diminue la superficie du jardin d'une façon conséquente. Et son jardin, il le traite à la française, avec une immense allée au milieu, et puis d'un côté des terrasses et de l'autre côté des arbres. On ressent que ce lieu-là n'est finalement qu'un lieu de transit, de passage, qu'on ne pourra pas continuer à vivre dans le jardin d'une façon correcte. Tout est fait pour accueillir un maximum de flux. D'autre part, on le trouve un peu trop insipide et beaucoup trop lié à la culture supermarché. Même dans sa forme, on a plus l'impression d'être dans une grande surface de province, en périphérie d'une ville de province, qu'au cœur d'une ville. Alors on a été séduit par les Hollandais. On a rencontré Vinimas. Ce qui nous a séduit, c'est sa philosophie généreuse. Il cherche à donner de la lumière au sous-sol, en donnant le maximum de verdure, le maximum de jardin, le maximum d'espace. On a ressenti la même chose avec Koulas, qui a une vision plus humaniste, une philosophie très généreuse. Il cherche pas à couvrir le centre commercial avec une sorte de tapis d'éléphant, pour dire, bon, c'est des commerces, c'est pas beau. Non, il dit, ça existe, c'est important, il y a beaucoup de monde, il faut lier le sous-sol à la surface, ouvrir les entrailles du centre vers le ciel, permettre à tous ces gens de respirer. Ils ont pris conscience, à travers ce qu'ils appellent le canyon, qu'il était nécessaire de faire sortir rapidement les gens du métro, que c'était pas nécessaire de les faire passer d'escalier, en escalator, de surface commerciale à surface commerciale vers l'extérieur, mais que tout de suite, en sortant du métro, on est de l'espace. Leur espace physique est très grand. Le jardin est fait de touches, des tas de petites touches et des lieux différents, qui seront propices à la prise de possession par la population de chacun de ces lieux. Maintenant, c'est clair qu'il va y avoir un... S'il y a un architecte de choisi, on désire vraiment continuer avec lui. Je pense que le pari de se dire que si les habitants arrivent à s'approprier, s'associer au projet, on le fera vivre naturellement. Et ça, ça me paraît être un point intéressant.
Il y a des zombies dans Paris, on murmure qui se cache à la mairie du Nord au Sud, zombies dans Paris. Oh yeah, 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 oh, 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 oh yeah, yeah. Rue du Bac, place de Clichy et de la rue des Dames, à la maison de la Vallée, et des Bastilles, jusqu'à Pigalle, il y a des zombies dans Paris, et des morts, rue du Bac, place de Clichy et de la rue des Dames, à la maison de la
Vallée. C'est pas un vrai twist, mais une évocation sous le nom Les Zombies par le groupe Powo des Destructions de Paris, à la manière un peu du twist des années 70. Colas humaniste, surtout dans la bouche d'une association, on aura vraiment tout entendu, c'est tout à fait étrange d'entendre. Il en serait fâché, le malheureux Colas, je pense. On va donc maintenant entreprendre le débat. Se réunit dans ce studio Serge Federbusch, qui est énarque, directeur de la SEM Paris Centre depuis juillet 2002, autrement. Auparavant, il était au cabinet du maire de Paris. Jean-Patrick Fortin, qui est architecte et archi-conseil de la SEM. Jean-Patrick Fortin est depuis longtemps un conseiller des maîtres d'ouvrage, puisqu'il avait créé en 77 l'atelier d'urbanisme et d'architecture de Chambéry, qui a été très célèbre, qui en doit notamment la caserne Curial, le réaménagement de Curial, le théâtre de Botta, l'échec du grand ensemble de logements sociaux, d'important ensemble de logements sociaux que devait faire Siani, qui était un grand événement dans les années, au début des années 80. Il a été deux fois délégué de banlieue 89 et il travaille donc dans plusieurs GPU. C'est un type qui s'intéresse beaucoup aux questions de banlieue, de grands ouvrages. Il a d'ailleurs fait paraître un ouvrage, Grands Ensembles, l'espace et ses raisons, il y a 4 ou 5 ans. Marguerite Descartes de la société Expansion, qui gère 30 centres commerciaux, dont l'énorme 4 temps qui va être entièrement refondu à La Défense et qui est une filiale du groupe Unibail. Marguerite Descartes, vous êtes sur le carreau des Halles, je veux dire, depuis l'origine.
Oui.
Vous avez vu naître
depuis
donc...
Depuis le concours.
Depuis le concours, hein. Le concours. Vous avez organisé un concours pour...
Non, à l'époque, il y a eu un grand concours qui a été lancé en 73.
Qui concernait quelle partie? Le parti Vasconi, la partie forum. Hein,
exactement.
Mais enfin, le projet de Vasconi n'est pas exactement, quand même, dans mon souvenir, une réponse à un concours au sens strict du mot.
Si, c'était un concours.
C'est le concours avec Bernard, etc.
Non, c'était une consultation pour y compris l'organisation du centre commercial et le financement même de ce centre commercial et les modalités de le mettre en œuvre.
Et Lorenzo Sancho de Coulac, j'ai mouillé son nom à la façon de la langue Doyle, il préfère qu'on dise de Coulac à la façon de Paris, puisqu'il est à la RATP, c'est bien normal. On a le sentiment, madame, messieurs, que cette affaire des Halles s'est en quelques mois développée de façon... extraordinaire, peut-être un peu de façon un peu fortuite ou inattendue, à partir de certains problèmes que se posaient à la fois les gestionnaires du centre commercial et les RATP, que de fil en aiguille, c'est devenu, sans qu'on l'ait peut-être tout à fait prémédité et pensé au début, une sorte de grand projet, ambitieux, complexe, difficile et presque peut-être embarrassant. Serge Federbusch.
Je pense que, en fait, dès l'origine, on savait qu'on touchait un périmètre qui était presque sacré dans l'histoire et dans l'âme de Paris, puisque à de nombreuses reprises, et même si on remonte à tous les débats qui ont précédé la construction des pavillons de Baltard et aux difficultés que Baltard avait eu à construire ses pavillons, au fait qu'il avait dû s'y reprendre puisque un des pavillons au départ en pierre avait été démoli. Et donc, bon, on savait que...
L'empereur Napoléon III.
Oui.
Il trouvait trop long.
Donc, bon, on savait qu'il y a une telle intensité, une telle densité sur ce site, tant d'attentes, en fait, que c'est un site qui n'a jamais trouvé véritablement historiquement son équilibre et que dès lors qu'on y toucherait malgré tout parce que les nécessités le font de manière ambitieuse et les nécessités l'imposent, eh bien, il était possible, sans qu'on en soit certain, qu'il y ait des vastes débats et même des débats un peu polémiques. Donc, ça ne nous étonne pas tout à fait.
Alors, quelle est la nature des problèmes techniques d'abord? D'abord, les problèmes RATP.
Les problèmes techniques, il n'y en a pas, c'est plutôt des problèmes d'abord d'assurer le maintien de la sécurité dans le temps. Comme vous le savez, il y a de plus en plus de personnes qui empruntent nos installations au niveau du pôle d'échange des Halles. Il y a sans doute de plus en plus de gens qui viennent dans le quartier des Halles, et donc à 10, 15, 20 ans, il faut être sûr que nous puissions toujours assurer l'évacuation, la circulation des gens dans cet espace relativement complexe. Le deuxième problème essentiel, c'est la qualité de l'accessibilité, la qualité des circulations. C'est l'un des plus grands pôles d'échange d'Europe, et aujourd'hui, on peut dire que pour aller d'un endroit à l'autre, il est extrêmement complexe. Pour sortir, pour rentrer, il n'est pas à la hauteur de ce que l'on pourrait attendre de ce pôle. Il faut rappeler qu'il fait plus de 500 mètres en longueur, parce que pour nous, ça va depuis pratiquement la Seine, au niveau de la place du Châtelet, jusqu'à la sortie de la station des Halles, qui est rue de Rambuteau, avec le métro. Et puis la troisième raison, c'est la qualité des services, la qualité architecturale, la qualité des espaces qui est aujourd'hui extrêmement disparate, hein, puisqu'on a des espaces depuis pratiquement les années 1900 jusqu'aux années 1998.
Oui, il y a toutes les couches d'histoire des RATP là-dedans.
Ah bah toutes.
C'est presque un conservatoire, remarquez ça.
Ben, c'est-à-dire que dans la partie rénovation des espaces, parce qu'on ne va pas tout refaire, je crois que ce sera assez important de maintenir effectivement le rappel du métro de 1900, le rappel du RER aussi des années 70.
Vous dites que c'est... que le forum, qu'on compare souvent à un millefeuille, est un millefeuille, mais il est doublé d'un Rubik's Cube. Donc c'est angoissant à ce point à comprendre.
Si c'était un millefeuille, on aurait chacun sa couche et nous nous occuperions soit de la crème pâtissière, soit de la pâte feuilletée. Mais malheureusement, si vous prenez par exemple les espaces de la RATP, nous sommes au niveau moins 4, mais au niveau moins 4, il y a également des parkings, il y a également des espaces commerciaux du forum. Puis si on remonte d'un cran, nous y avons des escaliers, et puis là, on retrouve le forum, et puis on a la station de métro, je crois, au niveau moins 2, et également une partie de nos espaces, et comme je l'ai dit, on sort même jusqu'au rez-de-chaussée, puisque nous avons des espaces...
Vous arrivez à le visualiser ? On arrive à visualiser un espace souterrain aussi intriqué ?
C'est peut-être l'avantage de ce projet, c'est que je vous avoue que je ne le visualisais pas il y a peut-être un an, et qu'aujourd'hui, je ne le visualise pas encore, mais
est-ce que comme la Défense, il y a des grottes, des espaces immenses qu'on ne connaîtrait pas et dont on n'a pas entièrement mesuré la dimension ? Jean-Patrick Fortin.
Ben, oui, par exemple, il y a les restes d'une station, la station Les Halles, qui a été abandonnée, puisque quand on a fait l'aménagement du quartier, on a déplacé une station de métro, on l'a un peu oubliée, et il y a donc les restes de l'ancienne station qui existe toujours avec sa voûte, certes partielle, c'est une vraie grotte.
Lorenzo Sancho Coulac, trois lignes RER, combien de lignes de métro ordinaire ?
Cinq.
Cinq, au Halles, y compris celle qui passe au Châtelet.
Voilà, exactement. Ouais. Ouais.
Les problèmes du centre commercial, Madame Descartes, c'est un centre commercial prospère ou c'est un centre commercial
C'est un centre commercial qui est très performant. C'est l'un des cinq premiers en France en matière de chiffre d'affaires réalisé au mètre carré. Et en matière également en termes de flux, puisque là on peut lui donner le numéro 1, puisqu'il a 41 millions de visiteurs par an, ce qui est considérable, loin devant les autres. Plutôt que, si vous voulez, le terme de millefeuille, je reprendrai pour le centre commercial, le terme d'iceberg.
Comme quoi, il y a des imaginaires différents déjà, voilà. Dans la maîtrise.
Donc, l'iceberg, parce que nos surfaces sont essentiellement souterraines, que très peu émergent. Ça fait partie d'ailleurs des enjeux que nous souhaitons voir émerger par le projet qui sera retenu. Hein. C'est également un souci que nous partageons avec la RATP, c'est celui des cheminements, hein, de plus de lisibilité, plus de visibilité, d'autres accès à la salle d'échange. Hein. Aujourd'hui, certaines zones sont fortement engorgées, d'autres sont beaucoup plus claires, beaucoup plus calmes. Bon, nous avons également, si vous voulez, des enjeux d'image. Hein. L'image s'est améliorée au fil des dernières années. Elle est loin d'être parfaite, certainement, et donc une nouvelle image doit être impulsée par la réalisation de l'un de ces projets. C'est une grande attente de notre part.
L'image, il y a un paradoxe dans cette affaire des Halles, c'est que l'affaire des Halles, un centre commercial, se veut toujours un peu chic, un peu élégant. Les bouteilles de flacons ou les directs de colas sont des endroits chics, ça évoque Prada plutôt. Or, les Halles sont, et seront encore plus si un jour se démocratisait l'accès à Paris par un prix de ticket moins cher pour les gens qui habitent à Montfermeil et Creil ou ailleurs, est aussi un lieu de convergence de populations de banlieue qui ont d'autres comportements marchands, à supposer qu'ils achètent.
Oui, si vous voulez, nous revendiquons notre clientèle populaire hein, qui fait toute la richesse, le brassage de ce site. Hein. Oui, tout à fait. Et bon, c'est clair que la clientèle d'habitants Paris représente, certes, est importante, mais elle représente 36%, tandis que la clientèle de l'Île-de-France représente tout le reste. Hein. Donc, c'est une clientèle qui trouve là, si vous voulez, une réponse à ses attentes en termes d'offres commerciales. Et je ne pense pas que les projets à venir transformeront cette clientèle, et en tout cas, je ne pense pas que ce soit souhaitable.
Donc, si vous parlez de clientèle, c'est pas seulement une clientèle, c'est un énorme espace public urbain, ou crypto-urbain, ou pseudo-urbain, dans lequel viennent des gens qui ne sont pas de votre clientèle.
Oui,
qui viennent zoner,
fait.
Qui viennent draguer, qui viennent faire autre chose.
Exactement, qui prennent tout simplement rendez-vous aussi avec d'autres, et pour se promener dans le quartier, vous avez quand même ça, à peu près 50% des gens qui viennent aussi se promener dans le quartier.
On entend dire qu'il y aurait une sorte de logique inégale entre la RATP et le centre commercial, en ça que la RATP voudrait qu'on accède rapidement et sans les ruptures de charges ou d'escaliers qui existent actuellement, et que vous, comme les aéroports, comme tous les grands centres commerciaux, avez plutôt envie de piéger la population et qu'on traîne un peu dans vos galeries avant d'aller au métro. Comment se passe cette...
C'est exact que nous serons toujours attentifs, si vous voulez, aux questions de circulation à l'intérieur du forum, mais il y a des voies d'amélioration possibles. Et nous sommes confiants sur le fait que les différents projets, en tout cas celui qui sera retenu, prendra en considération, si vous voulez, certaines de nos préoccupations légitimes.
Légitime d'un point de vue marchand, pas forcément d'un point de vue de la démocratie urbaine ou selon d'autres points de vue. Moi, j'ai pas envie du tout, dans un aéroport, de passer par centre commercial obligatoirement si je vais à l'avion, de marcher et de traîner ma valise.
Mais c'est là la question, c'est l'obligatoire. Oui. Il s'agit que les gens aient le choix. Il s'agit de faire un cheminement qui permette à tout moment de pouvoir aller dans des services, puisque c'est quand même agréable des fois de s'arrêter. Hein. C'est comme dans une rue, de s'arrêter, acheter le journal, acheter un CD ou acheter des chaussures de sport. Mais de pouvoir aussi y aller le plus directement possible. Mais le plus directement possible, c'est là où l'exercice est difficile. Aujourd'hui, le tuyau, le tube qui est sur la porte Lescaut est extrêmement direct. Mais est-il vraiment agréable?
Il y a une rupture de charge quand même. Il faut.
Il y a une petite rupture de charge. Mais là, déjà en descente 3 étages.
Il n'est pas si agréable quand on est précis,
Et il n'est pas du tout agréable. Contre, non, c'était là ce que je voulais dire. Est-il vraiment agréable? Donc il faut faire attention. Le directissime, c'est pas forcément la seule solution agréable. Le fait de s'arrêter à des paliers,
en fait,
et d'avoir le choix.
Connaissez-vous le nom de l'architecte qui a inventé tout ce système de rotules tapissées de petits carrelages de couleurs? C'est pas Bascogny, je pense.
Non, c'était. J'ai un trou de mémoire.
C'est pas Bojanski?
Non, là, j'ai un trou de mémoire. Le principe de cette salle à l'origine,
c'est
assez intéressant. C'est en fait d'en faire un mélangeur, c'est-à-dire que alors que la salle est un cube, est un parallélépipède, on essaie de ne pas montrer sa structure, de créer même un certain nombre de choses qui, enfin, c'est ce qui avait été décidé à l'époque, qui montrent pas comment ça fonctionne, et donc les gens se répartissent de façon relativement homogène dans toutes les directions et dans tous les sens dans la salle, mais malheureusement ils se perdent un peu. Et puis il y avait le jeu de couleurs. On devait connaître un côté chaud et un côté froid. Ouais. Je suis pas sûr que dans les 800 000 personnes qui passent par jour dans ces espaces, ils aient saisi qu'il y avait un côté chaud et un côté froid.
Enfin, c'est pas une architecture ridicule, quoi. Elle est un peu submergée, pas très lisible, mais elle n'est pas ridicule, je trouve. Elle sera détruite, bien sûr, j'imagine.
Elle a des avantages fonctionnels extrêmement importants, puisque c'est vrai qu'elle a au moins la qualité de mélanger les gens et de répartir sur l'ensemble de l'espace. Et un espace trop structuré et trop lisible, chose celle vers laquelle on veut également aller, pourrait conduire à entasser les gens tous dans une seule direction dans un seul coin de la salle. Donc ce sera très délicat et on ne sait pas exactement jusqu'où on ira.
Voilà pour une partie donc du cahier des charges. Jean-Patrick Fortin, c'est vous qui avez, je crois, en partie rédigé l'effectif cahier des charges donné aux quatre concurrents, si on peut appeler ça comme ça. Il y avait d'autres dimensions qui vous paraissent importantes? Plus public, le jardin, l'espace.
Bien sûr. Les halles, c'était en quelque sorte l'âge d'or de l'urbanisme, puisqu'il y avait un accord parfait entre une fonction, marché, des bâtiments et la vie urbaine. Donc là, c'est ce que tout le monde ressent comme absent. C'est-à-dire que actuellement, dans le quartier des Halles, il y a des fonctions magiques. Ce centre commercial, cette gare d'échange, ces multiplexes. Donc la fonction y est, ce lieu d'échange. Mais l'accord entre la vie urbaine et son cadre urbain manquait. Et je crois que c'est une question qui vient se surajouter à l'obsolescence, parce que je suis bâtisseur, il y a des problèmes techniques, hein, on ne va pas parler ici de joints de dilatation, mais un bâtiment qui n'a pas été entretenu pendant 30 ans doit nécessairement être refait. Donc, à partir du moment où il y a la conjonction de problèmes de constructibilité, de durabilité, de sécurité et de cette frustration du cadre urbain, il y avait l'opportunité pour essayer de se poser la question au XXIe siècle, qu'est-ce que c'est que le centre d'une métropole de 10 millions d'habitants.
Quand on entend parler de problèmes sécuritaires, on n'entend pas vraiment de problèmes policiers, on entend plutôt de gestion de foule. Ou est-ce qu'il y a aussi des problèmes d'atmosphère?
Ça, je crois que la sécurité, elle est sécuritaire, c'est un problème réel, hein, qu'il ne faut pas se, occulter, mais il ne faut pas le grandir non plus. Hein. Je crois qu'il est, d'abord, ça s'est considérablement amélioré, donc ça montre qu'avec une attention de l'activité, on peut remettre en cause ces problèmes sécuritaires. Il est évident que partout où il y a une foule, il y a des problèmes qui peuvent se poser. Par contre, comme ça a été dit, il s'agit de trouver pour le futur les unités de passage d'un accroissement des flux et qui est au service des Parisiens, parce que la gare d'échange, c'est au service des Parisiens, c'est formidable. L'arrivée de la ligne 14, c'est encore mieux pour les Parisiens. Et donc, il faut que, je dirais, qu'il y ait des gens qui en profitent.
Et est-ce que, Serge Fetterbou, je vous pose la question à vous, puisque vous étiez au cabinet du maire, est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension symbolique, une sorte de revanche de la gauche sur la plus célèbre et la plus ratée d'opération chiracienne? Pas la plus ratée, pas la plus médiatique, en tout cas, pas celle qui jouit de la plus grande aura.
Non, ce n'est pas du tout en termes de revanche que le problème se pose. Il y a un diagnostic, le diagnostic d'une frustration, d'une insuffisance. Bon, une image qu'on prend souvent, c'est que un piéton, quelqu'un qui connaîtrait finalement peu Paris, qui arriverait par la place des Vosges, la Bastille, la place des Vosges, qui traverserait le Marais et qui se rendrait vers le Louvre, arriverait au milieu de son parcours, dans le cœur vraiment de la ville, dans un espace qui n'est pas du tout à la hauteur de tout ce qu'il aura traversé avant et de tout ce qu'il s'apprêtera à traverser. Donc c'est une ambition qui dépasse largement le cadre strict des jeux politiques. C'est une ambition pour toute la ville et je crois que ça a été pensé et voulu comme ça par le maire de Paris dès l'origine. C'était pas le seul endroit d'ailleurs dans Paris où des opérations urbaines des années 70 un peu ratées, qui ont un peu massacré l'environnement, avaient été évoquées donc dans son travail initial, dans son programme, comme appelant nécessairement une réponse. Par exemple, il y a la place des fêtes, on l'a oublié un peu aujourd'hui. Bon, le sujet n'a pas été remis tout à fait sur le carreau, pour employer une expression plus progéale que de la place des fêtes, mais en tout cas, il y a comme ça des opérations des années 70 qui ont quand même été assez traumatisantes, et évidemment, une ambition politique, au sens le plus citadin et le plus noble du terme, c'est de pallier ces inconvénients et de trouver des solutions d'intérêt général, parce que je crois qu'on a entendu là tout à fait légitimement le point de vue de la RATP, le point de vue d'espace expansion gestionnaire du centre commercial, et l'intérêt général, l'intérêt de la ville de Paris, c'est un intérêt historique, c'est un intérêt qui a aussi sa dimension esthétique, qui doit tenir compte de tous ces intérêts, de la RATP, des usagers, des transports, des clients, mais qui également doit faire la synthèse de tout ça, et doit penser à ceux aussi qui ne vont pas forcément donc dans le centre commercial, qui ne transitent pas forcément dans les espaces du métro, mais qui utilise les Halles comme cœur de Paris.
On l'a vu avec les échecs du président Giscard d'Estaing aux Halles. L'expérience est longue et douloureuse et pénible pour lui, y compris symboliquement, puisqu'on était jusqu'à raser les bâtiments de Beaufils qui étaient arrivés au troisième étage, je crois me souvenir, qu'il avait engagé. Toutes ces questions sont liées à des calendriers politiques très difficiles. On l'a vu aussi pour les grands projets mitterrandiens. Là, c'est une affaire, bien évidemment, de deux mandats au minimum. Ça implique que le maire soit réélu. Donc ça veut dire que quand il va avoir à se représenter devant l'opinion, c'est dans 3 ans, je crois, il faudrait que l'affaire ne soit pas dans un état trop désastreux. Vous pensez bien, j'imagine, en termes de mandat, quand même, peut-être.
Le calendrier politique est nécessairement, effectivement, présent, parce que, de toute façon, il se traduit ensuite concrètement par des choix financiers. Hein, les budgets sont votés annuellement, et donc tout ça, évidemment, c'est la légitimité démocratique qui l'impose. Bon, en même temps, je crois qu'on peut aussi, de temps en temps, faire preuve, sinon de naïveté, mais au moins d'un minimum d'optimisme et de croyance dans le sens de l'intérêt général. Et les projets urbains ne sont pas forcément abandonnés systématiquement par les successeurs quand ils ont été engagés.
Oh, quasiment si. Quasiment si.
Au Halles, ça a été le cas.
Bon, ils ont quelqu'un qui a bien dit.
Au Halles, ça a été le cas. C'est partout. Pas forcément nécessairement. Oui.
la chose. Bon, ce qui s'est passé dans les années 70, c'est que c'était effectivement devenu un enjeu symbolique. Ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est qu'il y a, des divergences d'opinion, c'est certain. En même temps, les quatre projets sont quand même riches, intéressants et proposent des choix assez scandés, assez clivés. Et donc, chacun peut évidemment s'en investir. Il y a assez peu de voix pour dire qu'il ne faut rien faire, même très peu. Oui. Et donc, il y a une nécessité qui est reconnue très très généralement de faire quelque chose. Et ça, c'est le socle commun quand même d'une intervention.
Il y avait quand même une association qui rappelait les traumatismes subis par le quartier. Et il est vrai, quelqu'un disait que cette population actuelle, il y a peut-être même pas 10% qui était là et qui a vécu ces soi-disant traumatismes, qui ont été aussi d'ailleurs une fête. Une population riche, population de cadres, population de célibataires, etc., population de noceurs, de noctambules. C'est pas tellement le peuple de Paris qui vit au hall maintenant, hein. Il faut s'en souvenir quand même.
C'est le nouveau peuple de Paris, c'est-à-dire le peuple de la banlieue aussi qui arrive.
Non, mais, pas celui qui vote, pas celui qui a des associations.
Oui, mais enfin bon, là c'est effectivement un problème d'échelle.
Pour être concret, vous envisagez éventuellement de démonter les pavillons Villerval et puis éventuellement l'œuvre de Basconi avant les prochaines élections? Dans les 3 ans?
Ce qui était prévu et ce qui a été proposé d'ailleurs par les 4 équipes, c'est justement un phasage précis. Ce qui leur était demandé, c'était un remaniement en particulier du jardin pour l'améliorer, parce que ce jardin quand même nécessite des améliorations substantielles et certaines équipes donc investissent profondément ce lieu. Et également une intervention sur le bâti qui soit symbolique pour marquer. C'est important aussi, ce n'est pas simplement...
Mais avant les élections, vous pensez pouvoir?
D'ici 2007, on a demandé aux équipes d'avoir une intervention symbolique sur le bâti, et toutes le font dans leur phasage.
Il n'y a pas de meilleur symbolique, on s'en souvient pour 72, que la destruction.
Mais les
dangereuse du point de vue électoral.
Les équipes proposent toutes, d'ici 2007, en tout ou partie, la destruction des pavillons Villerval.
Et Fasconi.
Villerval et en partie...
Pourquoi ne pas avoir engagé un concours, mais un marché de définition? Ça, c'est une question technique un peu, mais il faudrait peut-être l'expliquer très brièvement quand même.
Je crois que la question qui se pose pour une métropole, c'est d'inventer son programme d'action. Un concours d'architecture, ça porte sur un programme. Vous faites le concours d'un lycée avec 12 classes et vous devez répondre avec 12 classes. Ce qui est posé au HAL, et d'ailleurs le concours le montre tout à fait, l'étude de définition le montre tout à fait, c'est qu'il y a des hypothèses de densité qui sont variables. Il y a des propositions de grands édifices alors que d'autres proposent au contraire une fragmentation. Donc il faut conjuguer simultanément le programme et la proposition formelle, c'est-à-dire grands édifices, petits édifices, et seule une étude de définition qui permet un débat constant entre le maître d'ouvrage, la SEM Centre, qui représente la ville de Paris, et bien sûr Espace Expansion et la RATP, autorise ce rapport complexe d'élaboration simultanée et du programme d'intervention et du projet.
D'ailleurs, on voit bien que certains disent c'est parce que la ville de Paris ne sait pas où elle va, qu'elle n'a aucun projet, aucune idéologie, parce que normalement c'est son atelier parisien d'urbanisme qui aurait dû préparer les choses en amont, etc. On voit quand même, c'est vrai, à la réflexion, en voyant comment s'est montée cette affaire, que là vous êtes avec des projets qui ont été en partie travaillés en commun pendant 3 ou 4 mois, puis en secret par chacun des candidats, et que le débat massif avec la presse, avec l'opinion, avec les associations, fait que tout ça crée une espèce de transformabilité du projet, y compris dans ses grandes ambitions. Donc on a le sentiment que c'est fructueux d'une certaine façon.
Je crois que quand même les concours, les 4 projets montrent qu'il y a des stratégies variables qui peuvent s'appliquer à ce lieu et qui sont toutes porteuses de sens. Et donc c'est en ce sens que ça me semble assez pertinent. Les 4 équipes ont fait en quelque sorte leur travail. Je dirais aussi que les gens qui sont ici, Espace Expansion, RATP et la SEM Centre, ont proposé à la mairie de Paris 4 équipes qui étaient assez contrastées.
Oui, on nous le reproche,
mais je crois que c'est un reproche injuste, parce que les choix stratégiques sont très larges, et donc on voit bien que entre l'axialité conventionnelle de Paris et une modernité abstraite, c'est pas la même chose. La frontalité d'un bâtiment de 144 mètres comparable aux Invalides et faire des petits objets plantés dans un jardin, c'est pas la même chose non plus. Donc, je crois qu'au contraire, la gamme des choix, une fois que
ce que vous reprochez plutôt, c'est que vous êtes bloqué en prenant 2 Hollandais assez proches l'un de l'autre.
Ben, je crois d'abord
dont que... l'un semble avoir botté en touche et fait plutôt un projet pour les revues que pour vous.
Oh, ça, je trouve que c'est désobligeant pour lui, c'est parce que c'est vraiment... Je crois que c'est extrêmement désobligeant et je crois que cette réaction, elle vient d'un climat actuel où l'innovation...
On parle de MVRDV.
L'innovation technique que représente ce projet est mal comprise par les responsables, ce qui est tout à fait, ce qui est compréhensible, mais l'exemple de l'aéroport le montre, c'est qu'actuellement, il y a une certaine frilosité de l'innovation technique en matière de projet urbain. C'est-à-dire que c'est vrai que prendre un risque technologique sur un projet sur plusieurs années, ça fait peur. Mais quand on regarde le détail, je pense que ce projet marquera, et il y aura certainement des éléments de ce projet qui...
Parce que jusqu'ici, on a parlé de flipper, on a parlé de dance floor, mot d'ailleurs proposé par Vinimas lui-même, et donc on les a peu vus comme des...
Oui, mais je crois qu'aussi, il y a une chose, il faut voir, le maire de Paris n'a pas proposé de construire un hôtel de ville, c'est-à-dire que le centre de Paris, ça ne sera plus un grand édifice, c'est pas le nouveau très grand bâtiment du très grand musée du 22e siècle qui se propose ici. C'est vrai qu'il y a une vision certainement ludique que le commerce déjà offre à ce centre de Paris et qui trouve une représentation architecturale diverse suivant les projets.
Qu'est-ce qui a motivé le report à l'automne? Parce que Antoine Debièvre, par exemple, dans le Journal du Dimanche de cette semaine, oui, il y a 3 ou 4 jours, qui attaque d'ailleurs souvent la nouvelle municipalité pour son envie cachée de faire des tours et qui attaque tout le temps l'ego supposé des architectes, explique que, ou laisse entendre que c'est parce que l'hôtel de ville aurait des candidats qu'il aimerait peut-être mêler, sous-entendu nouvelle écolasse, qui serait pas celui d'association, qui serait mangin, et que ça vous arrangerait d'attendre un peu pour voir.
Bon. Évidemment, la presse est tout à fait libre de ses analyses et de ses, ses convictions. Enfin, si je peux vous dire quelque chose pour y participer quotidiennement, c'est que c'est totalement faux, que les projets, comme on l'a dit, ont des qualités très fortes, qu'il y a un très vif débat en quantité et en qualité. Le succès qui nous étonne nous-mêmes, hein, très honnêtement, de l'exposition avec des dizaines de milliers de visiteurs et un afflux...
60 000, c'est extraordinaire.
Hein. Oui, c'est tout à fait inattendu. C'est plus que n'importe quelle exposition dans n'importe quel domaine aujourd'hui à Paris. Et donc, on est bien évidemment très satisfait. Et bon, en même temps, c'est une décision sur le fond, et le maire de Paris l'a dit, qui est extrêmement importante, puisque ça va engager, si le projet est réussi, on fait tout et on veut évidemment tous que le projet soit réussi, le visage de Paris pendant très longtemps. Et donc, il est évident qu'au regard de cet intérêt, de cette qualité, de cette richesse, de cette diversité, de cet afflux de débats et de points de vue et de l'importance de l'enjeu, il faut créer les conditions d'une adhésion, sinon d'un consensus, parce que ça, c'est pas possible, mais d'une adhésion quand même suffisamment forte autour des choix, autour des projets, quels que soient, en fait, les intérêts et les points de vue qui finalement ne triompheront pas, parce que c'est ça aussi la démocratie, mais pour que ce projet bénéficie justement d'un soutien tel qu'il évite d'entrer, de subir les affres des projets des années 70, c'est-à-dire on commence et puis on arrête tout au bout de 3 ans, et puis on casse tout, etc., etc., et on aboutit à la fin à une espèce de chimère qui ressemble à rien.
C'est le maire qui va conseiller, c'est pas un jury comme d'habitude, c'est enfin, comme dans un concours d'architecture, le maire va choisir, avec l'avis de ses qui voudra, notamment de vous, de tous et de ses conseillers, et puis de la rumeur, j'imagine, de la Vox Populi. Est-ce que vous pensez qu'on va vers un projet composite? Disons ça de free pour être péjoratif, mais c'est pas ce que je veux entendre. Est-ce que vous pensez qu'on va peut-être associer 1 ou 2 ou 3 équipes, ou pensez-vous qu'il y aurait un projet plus unitaire, tel que vous sentez les choses? Mais bien sûr, c'est un peu tôt peut-être.
Donc si la question m'est posée, je crois que le fait même que, mais évidemment, nos partenaires ont sans doute des opinions très intéressantes aussi là-dessus, mais le fait même que les projets soient très différenciés fait que, je dirais, le mixage ou le fait d'hybrider ces projets dans leur cœur, dans leur philosophie même, est délicat. C'est évident qu'on ne peut pas faire à la fois le carreau de Mangin, le dance floor de Winimas, les pyramides ou les flacons de parfum de
Soulas. Sans compter que l'effet politique serait pas très bon, peut-être.
Oui, et puis de toute façon, il faut chercher la cohérence et évidemment la beauté, pour employer un terme qu'on n'a plus le droit d'employer, mais qui est quand même une préoccupation forte, eh bien, ne trouverait pas son compte à quelque chose qui tirerait à UEADIA. Bon, en même temps, il y a aussi des propositions très variées, très diverses chez certaines équipes, sur tout le périmètre du quartier, qui peuvent parfaitement être conjuguée avec des propositions
ça s'appelle des lots de consolation, c'est pas ce qui intéresse
vous savez, un bâtiment important, même s'il n'est pas volumétriquement très important, mais en tout cas stratégiquement placé dans Paris, et plusieurs bâtiments dans cet endroit-là, chacun de ces bâtiments est suffisamment symbolique et fort, et donc porteur d'image pour être tous considérés comme très importants pour les architectes.
Alors un mot, parce qu'il ne reste plus qu'une minute et demie, sur le travail associatif. On a rarement vu en effet un débat comme ça mené aussi profondément avec les associations, à tel point que leurs rapports, leurs points de vue sont souvent extrêmement articulés. Hein, et d'ailleurs, leurs choix sont pas toujours pour manger, il y en a qui se prononcent pour d'autres. Le groupe UMP avait proposé un référendum pour les Parisiens, les communistes, les Verts ont dit pourquoi les Parisiens, pourquoi pas l'Île-de-France, on pourrait l'étendre même à la nation, ou aux étrangers, ou aux touristes, ça devient un peu compliqué, tout ça finalement ne se fera pas. Une question quand même sur votre exposition et l'usage que vous en faites. Je ne parle pas de l'usage que font chacun des architectes en amenant des foules, des étudiants, tout ça discuter. Vous avez été attaqué dans Libération en disant que vous faisiez comme si le visiteur était décideur. C'était Pierre Marcel, le 30 avril. Vous avez recueilli 7000 bulletins. Quelle technique de lecture de ces bulletins allez-vous mettre en œuvre? Très brièvement.
Bien, donc il y a une agence de communication qui est indépendante, qui a été choisie par la commission d'appel d'offres de la ville, qui va faire l'analyse de ces bulletins. Ces bulletins ne sont pas conçus comme des bulletins de vote, ils sont conçus comme des bulletins d'expression où chaque projet peut faire l'objet de commentaires. Et donc ce qu'on va demander à l'agence de communication, c'est de nous faire une synthèse de ces commentaires pour voir ce qui, dans chaque projet, plaît, attire le regard, dans quel domaine, dans quelle mesure, et comment effectivement les visiteurs ressentent ça, et même s'il y a des suggestions, parce qu'il est évident que sur ces milliers de visiteurs, il y a sans doute de bonnes idées à aussi.
C'est bizarre, parce qu'autrefois on aurait fait ça par une agence de sociologie, par exemple. Aujourd'hui, c'est une agence de com. C'est quand même, le mot est déjà un peu bizarre.
Oui, mais je crois que c'est une agence de communication qui comprend des sociologues. Donc,
voyons, on tombe sur. Oui, mais c'est bien ce que sont devenus les sociologues. 30 ans après 68, ils ont changé. De camp, quoi. Simplement une chose, est-ce que le public ou les médias auront accès à ce rapport de l'agence de communication?
Alors, le rapport, il y a un bilan de la concertation qui va être tiré devant le Conseil de Paris, qui comprendra à la fois le bilan des réunions publiques, elles sont très importantes, hein, oui. Et puis également cette analyse, et puis toutes sortes aussi, l'analyse, on fera une analyse des réactions médiatiques, des positions des associations, etc. etc.
À l'automne donc?
Oui, absolument.
Je signale aussi qu'un livre va paraître le 21 juin aux éditions du Moniteur sur ce concours, qui précédera un ouvrage sur le concours de Metz, le petit Beaubourg de Metz, qui va paraître juste après. L'exposition est prolongée donc dans la Grande Galerie du Forum des Halles jusqu'à octobre, peut-on dire?
Jusqu'à fin août, à coup
de... À fin août, oui, enfin, puisqu'il est question qu'elle circule aussi dans les 20 arrondissements, c'est ça qui est en débat. Il y a un site officiel que vous trouvez sur notre propre site, et le site d'Accomplir, que vous pouvez consulter aussi. Et puis, un peu de kiosque, il nous reste 2 minutes. Je tiens à signaler que dans le débat qui s'est engagé, un article de critique architecturale s'est d'ores et déjà installé au premier plan, par sa vivacité, son alacrité acide, et sa drôlerie, c'est celui que va publier dans 2 ou 3 jours Françoise Fromoneau dans le numéro de juin du mensuel DA, qui nous est parvenu par les miracles d'Internet. Intitulé « Le ventre des architectes », il prend nettement position pour Callas, mais là n'est pas la question. Il explicite parfaitement la dimension classicisante des 2 projets français, un jardin au bout duquel, face à la bourse ronde du commerce, trône dans les 2 un grand bâtiment carré et colonne, celui de Nouvelle et celui de Mangin, manière qui l'oppose à la démarche plus stratégiste des 2 Hollandais et à leur approche en coupe plutôt qu'en plan, ce qui était souvent souligné, mais qui est un peu injuste aussi pour Nouvelle, qui a très bien travaillé en coupe, et d'ailleurs peut-être Mangin aussi. Ce n'est pas surtout le site, quoi. Ce n'est pas d'ailleurs que Fromoneau défende MVRDV, son projet qu'elle appelle VRDV, MVRDV, RDVRD, c'est assez rigolo, elle prend le cœur du nom, auquel elle ne reconnaît qu'une excitation infantile de flippers, ce que vous dénoncez, vous, et dont elle dénonce l'exhibition roublarde et bâclée d'un coup aussi hâtif qu'impraticable. Mais elle taille vraiment dans les faiblesses des uns et des autres. Elle critique le relookage à minima de Mangin, projet qu'elle appelle BTP, avec son vocabulaire lénifiant de kiosques et de ramblas, la débauche d'effets qui confine à l'égarement du projet VRP de Nouvelle. Elle est très sévère avec Nouvelle, dont le foisonnement est à la fois le credo, la méthode et le but, écrit-elle, avec ses graminées sur le toit, sa piscine privée dans les roseaux, et le vulgaire dans le métro avec un jeu de miroir sur le toit pour se distraire. Non, elle en tient pour Colas et son projet qu'elle appelle VIP, donc VRP, BTP, VRP et VIP, qui, à son avis, assoit une logique avec ses couches d'activité
humidité enfouie qui gonfle vers le haut pour crever un ordre dispersé, une proposition indéniablement la plus riche estime-t-elle, car la plus ouverte à l'interprétation, même s'il s'agit, mais nous sommes à Paris, d'un manhattanisme bonsaï. Il n'est pas du tout souhaitable que l'on recrée le prix de la critique architecturale, car ce ne serait pas du jeu. Il y aurait nécessairement cette année à Françoise Fromenot et à Déa, qui à mon sens est la seule publication professionnelle à pratiquer un peu ce sport dangereux et d'ailleurs tout à fait passé de mode. Donc le ventre des architectes, Françoise Fromenot, DA 138, juin-juillet 2004, qui va paraître cette semaine, 66 pages, 9 euros. Hook, line, and sinker, we all on the brink of a world full of trinkets. Little life of towers and Mickey Mouse blinkers. The ink is wet on the rent check figures before the shit's cast. The raising it again. C'est vrai que Matthew Bonzai, quand on pense que Villeurbanne, c'était quand Villeurbanne, monsieur Fortin, les gratte-ciels de Villeurbanne? En 1934, ils font combien d'étages?
Ah, ils font, je sais pas, 22 niveaux.
Et des malheureux, ils vivent depuis sans crever. Bon, nous parlions aujourd'hui de l'aménagement du quartier des Halles de Paris. Nous avons entendu Rem Koolhaas, David Mangin, Jean Nouvel et Vinnie Maas, auteurs des quatre projets, puis le milliardaire, entre guillemets, américain Orrin Hine, qui voulut en 1970 racheter les pavillons de Baltar, puis les représentants des associations Accomplir, Gilles Pourbet, Union des Champeaux, Jean-Jacques Gouret et Paris des Halles, Gilles Beauvais, l'architecte Paul Chemetoff, auteur de galeries souterraines, enfin débattu avec Serge Fetterbu, directeur de la SEM Paris Centre, Jean-Patrick Fortin, architecte et conseiller de la SEM, Marguerite Descartes de la cité Espace Expansion et Lorenzo Sancho de Coulac de la RATP. Nous avons remis à plus tard car l'émission était très pleine. Nous entendrons dans 15 jours quelques points de vue d'architectes et d'urbanistes, ceux de Michel Bourdeau, Alexandre Chemetoff, Henri Siriani, Bruno Forti, Antoine Grimbach, Christian Ouvet et Dominique Lyon. La semaine prochaine, nous célébrerons à notre façon le 100e anniversaire du 16 juin 1904 qui est le Bloomsday, au cours de laquelle se déroule l'action de l'Ulysse de James Joyce. Nous entendrons brièvement Patrick Berger, lauréat 2004 du Grand Prix National de l'Architecture, et nous consacrerons quasiment toute l'émission à une visite du parc du Château de Versailles avec un merveilleux historien, Michel Baridon. Je vous rappelle l'adresse de notre site internet, c'est franceculture.com. C'était Métropolitain, une émission de François Chalin, réalisation Brigitte Riouet, avec la technique aujourd'hui Henri Bérec. Il est 10h30 et maintenant place à la musique sur France Culture.